Je suis le professeur Xavier Girard, cardiologue à la Salpêtrière à Paris et président de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle. Le sujet de cette leçon est mise en place et adaptation du traitement antihypertenseur. Alors, la première chose importante, c'est que la prise en charge de l'hypertension artérielle en France s'est dégradée au cours des dernières années. Effectivement, comme le montrent toutes les enquêtes faites par la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle et le Comité de lutte contre l'hypertension, les enquêtes flash, le traitement antihypertenseur qui concerne en France un tiers des adultes, près de 30% des adultes âgés de plus de 35 ans déclarent suivre au moins un médicament antihypertenseur. Eh bien, malheureusement, on observe que depuis 2007, où 32% des adultes déclaraient prendre au moins un médicament antihypertenseur, eh bien, depuis 2017, ce chiffre ne se situe à moins de 30%, 28%, et en 2022, on observe toujours la stagnation du nombre des individus qui prennent un traitement antihypertenseur. Alors, cette stagnation n'est pas isolée. D'autres maladies, facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, comme l'hypercholestérolémie et son traitement par les statines fait que on observe aussi une diminution du nombre de gens qui prennent des médicaments contre ces facteurs de risque cardiovasculaire, et ce point est traduit une problématique qui est celle du moindre intérêt pour la prévention cardiovasculaire des individus qui vivent en France métropolitaine, et puis peut-être aussi le moindre intérêt qu'ont les gens, ou même plus qu'un moindre intérêt, c'est l'opposition que les gens ont vis-à-vis de la chimie, des médicaments. Les médicaments contre l'hypertension artérielle, contre le cholestérol, les gens ne veulent plus prendre de médicaments. Eh bien, la conséquence en est que ces patients sont malheureusement, et on le voit par d'autres enquêtes, flash, qui montrent que la façon dont les médicaments sont utilisés pour combattre l'hypertension artérielle s'est modifié au cours des 15 dernières années, et qu'il y a toujours un nombre inférieur à 50% de gens qui prennent plus d'un médicament. 44% des individus sont soignés par uniquement un médicament antihypertenseur, alors que l'on sait que malheureusement, les médicaments antihypertenseurs, pour une majorité de sujets, imposent d'avoir deux médicaments. C'est une fameuse bithérapie. La bithérapie devrait être majoritaire. Elle est majoritaire dans beaucoup de pays du monde, mais pas en France. Et cette bithérapie, si elle n'est pas prescrite, c'est pas uniquement le problème des patients, c'est aussi le problème des prescripteurs, des professionnels de santé qui ne prescrivent pas les médicaments qui devraient être prescrits chez leurs patients, peut-être parce que les patients les refusent. Quoi qu'il en soit, il y a un vrai problème, et cette problématique-là, on peut aussi l'observer en fonction du genre du patient. Des études là toutes récentes, l'enquête Flash 2022 s'est intéressée à la prescription en monothérapie, en bithérapie ou plus, chez les hommes ou chez les femmes. Et on se rend compte qu'il y a plus de femmes sous monothérapie que d'hommes, 47% des femmes sous monothérapie, alors que les hommes se retrouvent aux alentours de 40%, c'est-à-dire que peut-être que les femmes bénéficient moins des traitements médicamenteux. Il n'y a aucune raison de penser que les femmes n'ont pas besoin d'autant de médicaments que les hommes. Eh bien, en pratique, les femmes peut-être refusent plus les médicaments antihypertenseurs que les hommes, mais en tout cas, on ne soigne pas les hommes et les femmes de la même façon. Ce point doit être probablement travailler, discuter, car c'est un peu mystérieux. C'est un peu mystérieux. Et quand on va vers des chiffres concernant le contrôle de la pression artérielle, le contrôle de la pression artérielle, c'est un terme très médical, mais ça veut dire quand les gens prennent un médicament, est-ce que leur niveau de tension est celui d'une tension qui les protège de façon optimale. Alors pour être protégé de façon optimale, on en reparlera un petit peu plus tard, mais il faut avoir à la maison 130 de pression artérielle quand on mesure avec un appareil automatique. Mais si on prend le chiffre de 135, qui est un chiffre qui doit être accessible à une majorité de gens, eh bien on se rend compte que les hypertendus qui suivent un médicament antihypertenseur, c'est la façon de les définir comme hypertendus traités, eh bien, il n'y en a que 73% qui ont une pression artérielle au domicile à moins de 135 pour la systolique. Il y en a 60% qui ont entre 120 et 139, et seulement 22% qui sont à moins de 120. Alors, on voit bien que ces chiffres ne sont pas excellents. Quitte à prendre un traitement, eh bien, autant prendre un traitement qui vous protège. Eh bien, ce n'est pas le cas en France en 2022. Les gens prennent des traitements d'hypertenseurs en moins grand nombre qu'il y a 15 ans. Et en plus, ces traitements sont moins efficaces pour obtenir la prévention et la protection cardiovasculaire optimale. Donc, il n'y a pas que les patients. Il y a aussi les professionnels de santé, la qualité de la prescription, la conviction que l'on peut avoir sur l'objectif à atteindre, l'engagement des professionnels de santé, c'est probablement atténué, en tout cas en France, au cours de la dernière décennie. Donc, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et les moyens pour abaisser la pression artérielle, on le sait, sont préconisé comme étant, utilisons des moyens non pharmacologiques et puis ensuite des moyens pharmacologiques. Les gens n'aiment pas les médicaments de nos jours. Eh bien, on leur a proposé, c'était très officiel, la mise en avant des méthodes nutritionnelles, de l'activité physique et sportive. Toutes les données de la littérature internationale, ce n'est pas une seule étude, c'est l'ensemble des méta-analyses, d'études randomisées, donc de bonne qualité méthodologique, indiquent que toutes les actions de nutrition permettent d'obtenir en moyenne une baisse de 4 mm de mercure pour la systolique. Toutes les actions et les programmes de reprise de l'activité physique permettent d'obtenir en moyenne une baisse de 6 mm de mercure. Alors que les traitements antihypertenseurs, en particulier les bithérapies, permettent d'obtenir une baisse de 20 mm de mercure. Alors voilà, les moyens non pharmacologiques pour la prise en charge de l'hypertension artérielle qui sont promus par les autorités sanitaires et qui sont très largement entendus par la population ont une efficacité prouvée, mais cette efficacité est plus faible et de plus faible intensité que les médicaments que les gens ne veulent plus prendre. Voilà, mais on est là aujourd'hui dans une situation très, très paradoxale, très nouvelle. On a des moyens très efficaces et ces moyens ne sont plus utilisés ni par les professionnels de santé de façon optimale et ne sont plus acceptés par les patients qui préfèrent les moyens non pharmacologiques et qui marchent seulement un peu. Et donc, il y a là un changement de paradigme qui probablement doit être sociétal. Il faut faire la promotion des médicaments. C'est pas honteux, c'est pas dangereux de prendre des antihypertenseurs. C'est bien évidemment toujours un bienfait de mettre en œuvre des mesures non médicamenteuses, mais ces mesures non médicamenteuses ne permettent pas d'obtenir la protection optimale de la baisse tensionnelle nécessaire à la majorité des patients hypertendus. Alors, il y a deux éléments qui sont très connus et très médiatisés depuis la nuit des temps. C'est marqué à la télévision sur toutes les publicités du nutritionnel. Le sel, c'est mauvais pour le cœur. Bon, je ne reviendrai pas sur les preuves concernant les effets du sel, mais des études très récentes publiées dans les grandes revues nord-américaines mettent en évidence que cet effet de la diminution de la consommation sodée de 5 grammes par jour, ce qui est un énorme effort hein, pour un individu, diminuer de 5 grammes sa consommation de sel, c'est très compliqué, ça nécessite réellement de faire très attention. Eh bien, la baisse de la pression artérielle obtenue avec cette diminution de 5 grammes par jour et de 6,5 mm pour l'hypertendu, et de 2,3 mm pour un normotendu. C'est-à-dire que le bénéfice est plus important chez l'hypertendu que chez le normotendu, mais ce bénéfice reste très très modeste. Et donc, pour de grosses contraintes, le bénéfice est en fait assez modeste. Alors, il ne faut pas le nier, mais il faut bien le présenter aux gens comme une vérité. La vérité, c'est que la nutrition, c'est important, mais c'est pas le seul moyen de soigner l'hypertension artérielle. Alors, les éléments concernant justement la nutrition et le sel se sont enrichis depuis plusieurs années, mais c'est assez peu populaire aujourd'hui encore en Europe et en France. Ça allait beaucoup plus aux États-Unis sur le fait que il y a quelque chose qui est bénéfique, c'est de diminuer sa consommation de sel, dans des quantités, on l'a vu, qui ne sont pas d'une très grande intensité d'effet, mais c'est surtout d'augmenter la consommation de potassium alimentaire. Le potassium alimentaire, il est contenu dans les fruits, les légumes, les graines et autres fruits secs. Et ce qui a été démontré dans une étude toute récente publiée dans New England Journal of Medicine, c'est que augmenter sa consommation de potassium d'origine alimentaire et diminuer sa consommation de sodium, c'est ça qui est le plus efficace pour permettre non seulement de baisser la pression artérielle, mais surtout de diminuer le risque cardiovasculaire. Et diminuer le risque cardiovasculaire, on peut même le quantifier, on a une augmentation de 18% du risque cardiovasculaire par gramme de sodium consommé, et on a une diminution de 18% du risque cardiovasculaire par gramme de potassium éliminé dans les urines, qui est un marqueur de la consommation du potassium alimentaire, qui n'est pas un excellent marqueur. D'ailleurs, il est très difficile d'évaluer le potassium alimentaire par les quantités de potassium excrétées, parce que le potassium est éliminé essentiellement au niveau du tube digestif et pas au niveau des urines. Donc, on a une approximation des quantités de potassium alimentaire lorsque l'on fait un dosage de potassium urinaire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans le cadre de cette leçon, on doit pouvoir donner des conseils pour le sel chez les patients qui souffrent d'hypertension artérielle. Premier conseil, il ne faut pas leur dire de manger sans sel. Le régime sans sel n'est plus préconisé depuis les années 1950, sauf cas très particuliers de pathologies hypertensives associées à une insuffisance cardiaque. Et ce point n'est pas du tout la règle pour la majorité des gens. Deuxièmement, il faut leur proposer de consommer de façon modérée des aliments qui contiennent du sel dit caché. On sait que dans la cuisine gauloise, le pain, le fromage, la charcuterie sont des aliments qui ont besoin pour leur fabrication ou pour leur conservation d'avoir du sel, du sodium, du chlorure de sodium. Et il faut essayer d'en diminuer chez les gros mangeurs de pain et de fromage et hypertendus, de leur faire revenir à des consommations de raisonnables. Il y a d'autres cultures culinaires que la culture gauloise du pain et du fromage. Et si on mange des plats africains, dans les plats africains, on rajoute du bouillon cube. Alors, on n'en rajoute pas un, on en rajoute 5 à 6. Donc, il est très important chez un patient qui a une culture culinaire des cuisines africaines, de pouvoir le mettre en garde contre l'usage des bouillons cubes qui vont saler de façon très excessive les apports quotidiens et augmenter les apports quotidiens de sel. Mais il y a la même chose pour la cuisine asiatique et surtout les sauces asiatiques, les sauces gnoc mam, les sauces soja, la sauce huître, c'est de la saumure. Hein, et donc, il faut vraiment essayer d'avoir un discours très personnalisé avec chacun pour pouvoir l'aider à retrouver les aliments, les pièges dans lesquels ils tombent lorsque ils s'alimentent de façon normale et occasionnelle. Mais donc, pas de message d'interdiction, des messages de modération peuvent être utiles, en particulier, d'autant plus utiles que la pression artérielle est élevée, hein. Embêter beaucoup les gens avec une pression artérielle normale pour leur dire manger sans sel pour ne pas devenir hypertendu. À ma connaissance, la démonstration n'a jamais été faite que la restriction sodée empêchait l'apparition d'hypertension artérielle. Alors donc, voilà. Alors on va passer à une dernière... conseil extrêmement populaire actuellement, qui est l'activité physique. L'activité physique protège contre toutes les maladies et il faut favoriser le sport. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller faire la publicité, bien évidemment. Alors, la grande sédentarité n'est pas bon pour la santé. Le sport en excès n'est pas bon pour la santé non plus. Alors, où est la vérité concernant l'hypertension artérielle? Je dois à Philippe Sossner, un grand spécialiste de la médecine du sport, cette diapositive qui montre les résultats, la synthèse de l'ensemble des travaux effectués depuis une vingtaine d'années concernant la typologie de l'activité physique et la baisse de la pression artérielle. Vous voyez que ce qui marche le mieux, c'est les activités physiques et sportives en endurance et aérobie, c'est-à-dire typiquement le vélo, la course à pied, tout ce qui fait qu'on bouge et qu'on bouge en respirant. En respirant, pas tous les sports où on oublie de respirer, où on est à glotte fermée, ne sont pas bons du tout pour la pression artérielle. Ça baisse pas la pression artérielle, ça la fait augmenter. Mais vous voyez aussi que il y a des activités physiques qui n'apparaissent pas comme très intenses, par exemple le yoga, le tai chi, et pour laquelle la baisse tensionnelle est de 7 mm de mercure dans les méta-analyses. Et puis il y a d'autres activités où l'endurance en aérobie, quand on évalue pourtant ces méthodes qui sont des méthodes trois fois par semaine, il faut transpirer au bout de 10 minutes, enfin c'est pas faire le tour du pâté de maison, hein, et marcher qui a montré un bénéfice en termes de baisse tensionnelle, mais quand on évalue la pression artérielle avec une mesure ambulatoire de pression artérielle, donc un élément très objectif dans des études randomisées, la baisse n'est plus que de 4 mm de mercure. Donc l'activité physique et sportive, même à grande intensité, a un bénéfice qui est concernant le contrôle de la pression artérielle modéré et en tout cas plus faible que celle des médicaments antihypertenseurs. Alors beaucoup de patients ne veulent pas l'entendre, et dans mon expérience personnelle, c'est des patients qui vous disent mais je fais du sport, je ne comprends pas, je suis pourtant avec des chiffres élevés de tension à la maison. Eh bien, il faut leur dire le sport ne suffit pas dans votre forme d'hypertension, il va falloir pouvoir accompagner la poursuite de votre activité physique et sportive d'autres moyens, et ces autres moyens vont être les médicaments antihypertenseurs. Et des études ont été faites il y a très longtemps. Voilà une publication de 2005 qui avait inclus, surveillé plus de 1000 hypertendus qui avaient une activité physique en endurance aérobie selon toutes les normes. Ils faisaient vraiment tout ce qu'il fallait faire. Et ces 1000 hypertendus étaient tous traités par des médicaments antihypertenseurs. Et au terme de 2 mois d'un programme d'activité physique vraiment intensif, on a pu observer que à peu près la moitié des patients pouvaient diminuer le nombre des médicaments antihypertenseurs ou leur dosage, et que de ce fait, c'était les bénéfices de l'activité physique et sportive. Mais malheureusement, ce n'est que la moitié des gens. Et donc, il y a bien là une triste vérité que les gens ne veulent pas entendre, mais qui est la réalité démontrée dans les études, c'est que le sport n'est pas une alternative aux médicaments, c'est un complément aux médicaments antihypertenseurs, mais si on veut être bien protégé, il faut faire du sport, certes, mais aussi prendre des médicaments antihypertenseurs. Alors, on va maintenant passer aux éléments plus pratiques de stratégie pour prise en charge. Qu'est-ce qui est recommandé par les autorités officielles? Eh bien, vous savez qu'en France, c'est la Haute Autorité de Santé qui a de façon très régulière, mais la dernière fois très régulière, ça date de 2016. Alors 2016, ça commence à dater un peu. On n'arrive pas à obtenir de mise à jour des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui soient publiées. Il y a des groupes de travail, il y a des ci, il y a des ça, mais enfin, il n'y a rien de publié. Et en 2016, en tout cas, la stratégie était de dire, on débute un traitement pour contrer l'hypertension artérielle par une monothérapie chez tous les patients en première intention. Et ce n'est qu'après 4 semaines d'essai de cette monothérapie qu'on va mettre une bithérapie, de préférence en combinaison fixe pour tenter d'améliorer le problème de l'adhésion au traitement. Moins on a de comprimés, plus les patients le prennent volontiers. Eh bien, un seul comprimé en combinaison fixe d'une bithérapie, c'était la préconisation de la recommandation de la Haute Autorité de Santé de 2016. Mais alors, cette recommandation française, elle a été depuis largement remise en question par les autorités européennes, l'European Society of Cardiology, l'European Society of Hypertension, et puis la Société internationale d'hypertension, qui en 2018 et en 2020, et on attend pour cette année les nouvelles recommandations de la Société européenne d'hypertension en 2022, qui viendront probablement confirmer ce schéma très différent de celui préconisé en France, qui est de dire non, on ne débute pas un traitement par une monothérapie chez la majorité des gens. Chez la majorité des gens, on débute par une bithérapie en combinaison fixe, c'est-à-dire qu'on franchit d'emblée une étape. La bithérapie en combinaison fixe, c'est un seul comprimé, deux principes actifs, une baisse tensionnelle en moyenne de 20 mm de mercure pour la systolique, donc un gage d'efficacité qui fait que efficacité, bonne tolérance, il y a un avantage à d'emblée proposer la bithérapie en combinaison fixe, sauf cas particulier, patient dont le niveau tensionnel est très proche de l'objectif, ou patient fragile avec des pathologies qui feront craindre une hypotension, patient âgé, patient avec de multipathologies et de multitraitements. Voilà. Cette recommandation fait suite à... Alors, qu'est-ce qu'on fait après la bithérapie en combinaison fixe? Eh bien, on propose une trithérapie. Et la trithérapie en combinaison fixe. Et là, c'est là qu'il y a le petit problème en France, c'est que en France, seul pays d'Europe et du monde d'ailleurs, où ces produits de trithérapie en combinaison fixe n'ont pas été remboursés par l'assurance maladie, n'ont pas obtenu les agréments pour des raisons qui sont propres à l'assurance maladie et que je laisserai d'autres de mes collègues expliciter. Quoi qu'il en soit, en fait, nous n'avons pas les moyens techniques en France de pouvoir appliquer cette recommandation européenne de garder la monoprise, un seul comprimé avec deux ou trois médicaments antihypertenseurs, et que en France, en fait, si on veut passer à la trithérapie, eh bien, on a forcément deux comprimés. Et ça, deux comprimés, les patients, ils ont beaucoup de mal à l'accepter. Un comprimé, bon, ça va encore. Deux, ils ont l'impression qu'ils sont plus malades, qu'ils vont avoir plus d'effets. Bon, ce qui est parfois vrai, parfois faux. Quoi qu'il en soit, les recommandations européennes, eh bien, en France, du fait d'un blocage administratif, eh bien, nous ne pouvons en fait pas les appliquer. Et il faudrait que cette solution soit modifié, change, est-ce que ça sera possible? Ce n'est pas, moi, en tout cas, de mon pouvoir de pouvoir changer la recommandation de la Société française, pas d'hypertension artérielle, mais de la Haute Autorité de Santé et de l'Agence du médicament. Alors, j'aimerais mettre en avant un point qui est en fait le vrai changement. Le vrai changement est dans la leçon que je donne cette année sur cette thématique que j'aborde depuis de nombreuses années. En fait, la nouveauté vient de Chine. Oui, la nouveauté vient de Chine. Les Chinois, en médecine et en hypertension artérielle, en prévention cardiovasculaire, les Chinois sont très exposés aux maladies cardiovasculaires pour de tas de raisons. Il y a beaucoup de fumeurs, il y a beaucoup d'hypertension artérielle dans les pays asiatiques. Et donc, c'est un vrai problème de santé publique pour eux. Mais le système de santé en Chine n'est pas celui des pays les plus évolués, sur le plan économique en tout cas. Mais ils font de gros efforts et surtout, ils font des publications maintenant, d'études absolument incroyables avec... plus de 30 000 sujets qui sont des gens qui peut-être sont mal suivis ou n'ont pas les moyens. Et ben c'est justement ça. Et ils remettent en question les stratégies qui ont été développées par les pays à haut revenu économique et qui ont une organisation du système de soins qui fait que l'hypertension s'est pris en charge, s'est dépisté par des professionnels de santé, puis ensuite pris en charge par des médecins spécialistes éventuellement qui font des examens, des ci, des ça, les médicaments sont remboursés ou pas par les systèmes de santé, mais voilà. Les Chinois, ils cassent complètement le système. Et ils ont publié en 2021 dans New England Journal of Medicine et dans Lancet en 2023, début février, donc on est vraiment dans une actualité incroyable, des études qui cassent complètement le paradigme. Alors ces études, la première publiée en 2021, c'était pour fixer l'objectif tensionnel. Et ils avaient bien dit, ben non, l'objectif tensionnel, il faut arrêter de dire que c'est 140-90. L'objectif tensionnel, c'est 130-80. Et on vous démontre même dans une étude que même moins de 120, il y a un bénéfice en termes de prévention des maladies cardiovasculaires. On y arrive même chez les sujets âgés, même chez tout le monde. Et surtout, on y arrive en utilisant des méthodes qui sont celles du numérique en santé. En Chine, dans les villages, les gens étaient équipés d'un tensiomètre automatique des meilleures marques mondiales et qui étaient connectés à une base de données centralisée, à la chinoise, dirons-nous. Mais quoi qu'il en soit, en faisant cela, eh bien, on arrive à prendre en charge les populations sans aucune... éducation sans aucun moyen autre que ceux de la technologie moderne. Et puis dans le papier le plus récent, là, du Lancet 2023, ils ont franchi une étape terrible, qui est de se dire, mais est-ce qu'on peut soigner l'hypertension artérielle sans l'aide d'un médecin, avec des officiers de santé, des gens qui ont été formés à l'usage des tensiomètres automatiques, à l'usage du numérique en santé et à l'usage des traitements antihypertenseurs. Alors, ce n'est pas des traitements simplifiés. Hein. La liste est exactement celle que l'on a en Europe et en France. Les ARA2, les IEC, les diurétiques. Alors, on voit que les antagonistes calciques, que l'usage, c'est un usage de stratégie. On leur dit monothérapie, bithérapie. Et la monothérapie, il préconise surtout, on le voit bien, les antagonistes calciques et ensuite le bloqueur du système rénine-angiotensine combiné à un diurétique. C'est IEC diurétique, ARA2 diurétique, antagoniste calcique, très très peu de bêta-bloquants. Et en faisant cela, eh bien, le résultat de ces études est diminution de la mortalité cardiovasculaire de plus de 30%. C'est-à-dire non seulement la baisse tensionnelle meilleure, par comparaison à la prise en charge habituelle faite par des professionnels de santé. Donc on voit bien là qu'il y a une révolution culturelle, il y a une ubérisation. J'ose ce terme-là, de la prise en charge. Il n'est plus la peine d'être médecin pour pouvoir bien prendre en charge une population de gens très simples. Alors, on leur offre les médicaments, par exemple. Bien évidemment, le tensiomètre est mis à disposition par l'officier de santé. Le système, l'adhésion au traitement est bien regardée. On insiste un peu sur des mesures non médicamenteuses, mais ce n'est pas du tout mis en avant. Hein. Ce qui est mis en avant, ce sont les médicaments, leur usage, leur bon usage, selon des règles qui n'ont rien de révolutionnaire, mais c'est la révolution, c'est qui les met en œuvre. Qui les met en œuvre ? Eh bien, ce ne sont plus des médecins. Ce ne sont plus des médecins, ce sont des professionnels de santé qui... non, même pas des professionnels de santé, des gens qui ont eu une éducation post-initiale, ils le décrivent comme étant des gens qui ont eu 3 ans d'enseignement non universitaire, mais qui est après l'enseignement initial. Donc c'est des gens qui savent lire, écrire et qui ont un intérêt pour... le soin des autres et auquel on a appris une compétence. Donc voilà, on est vraiment dans une révolution, et cette révolution, j'aimerais y associer les objectifs. C'est pour atteindre quel objectif? Là aussi, il y a quelque chose de très nouveau, mais ça fait déjà 15 ans que ça dure, mais c'est toujours pas rentré dans la tête des médecins. C'est étonnant, c'est que l'objectif, c'est pas d'avoir 14,9, c'est d'avoir moins de 130, moins de 80. Donc déjà, on ne parle plus en centimètres de mercure, mais en millimètres de mercure, 130 et pas 13, 80 et pas moins de 9. Voilà, pour tous les hypertendus, les jeunes, les vieux, les malades, les plus graves, il faut arrêter ces fantasmes. Les patients les plus fragiles, il faut faire attention. Toutes les études actuellement démontrent que non, les effets indésirables ne sont pas associés à l'augmentation du nombre des traitements. Oui, ils sont associés, mais ça se gère très bien, ça ne tue pas les gens. Ce qui évite de les faire mourir, c'est d'avoir une pression artérielle la plus basse possible. Mais pour pouvoir évaluer la pression artérielle, il faut mesurer la pression artérielle avec un tensiomètre automatique. Il faut faire au moins 3 mesures, exclure la première mesure, c'est ce qui est recommandé par la Société internationale d'hypertension. Les Chinois, par exemple, dans leur étude, là, ils ne faisaient que 2 mesures. 2 mesures, et ils faisaient la moyenne des 2. Pourquoi pas? 2 mesures, c'est plus rapide à faire que 3. Alors peut-être qu'il faudrait s'arrêter à 2 mesures et pas 3, parce que 3, on dit faites 3 mesures, mais aucun médecin ne le fait parce qu'il n'a pas le temps de le faire. Donc voilà. Alors j'aimerais terminer pour dire qu'en France, on peut se dire qu'on est vraiment très en arrière par rapport à toutes ces innovations. Innovation d'organisation, innovation pharmacologique. Alors, pour quelles raisons on est en arrière? Tout le monde, d'abord, ne veut pas être en arrière. Et par exemple, la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle a, depuis quelques années, investi beaucoup de temps et d'énergie à essayer de développer des outils pour le numérique en santé. Le numérique en santé, ça peut être plein de choses, la téléconsultation, la téléexpertise, mais ça peut être aussi une application qui aide les patients et les médecins à bien gérer la pression artérielle mesurée à domicile. Ce fameux automesure. Alors l'automesure, est-ce que ça doit être 3 jours? La règle des 3, elle date de plus de 20 ans hein, en France. C'est le comité de lutte contre l'hypertension artérielle qui l'avait mise en avant. Et à l'époque, j'en étais le président. Bon, mais moi, je pense que maintenant, en 3 jours, en fait, pour la majorité des gens, ça ne sert absolument à rien de faire 3 jours. Il faut surtout faire au moins 2 mesures, voire 3 sur 1-2 jours. Et ça, dans l'application, il y a un algorithme qui permet de s'adapter à la situation de chacun, au niveau tensionnel de chacun. Donc voilà, suivi HTA, très peu connu des médecins qui l'utilisent plus ou moins, beaucoup plus connu des patients, 150 000 téléchargements de cette application. Alors, c'est pas la guerre des applications. Cette application, elle est indépendante des vendeurs de tensiomètres, elle est indépendante des services universitaires. Voilà, c'est une application qui a été faite pour aider les patients, aider les médecins à bien utiliser un tensiomètre automatique, à de ce fait avoir une meilleure connaissance de son niveau tensionnel, de sa prise en charge de l'hypertension. Alors, le numérique en santé, c'est pas uniquement des applications, de la téléconsultation, c'est aussi de la formation. Eh bien, pour connaître les choses, on peut lire les articles, on peut s'inscrire au DIU, mais on peut aussi s'informer sur le net. Alors, ou aller trouver des informations qui soient celles qui sont conçues par des professionnels de ce domaine-là. Il y a beaucoup d'experts autoproclamés dans tous les domaines de la médecine. Eh bien, la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle a créé une chaîne YouTube, Hypertension France, qui comporte maintenant plus de 150 vidéos de tout format, moins de 30 secondes, plus de 20 minutes, conférences enregistrées, interviews de patients, témoignages patients, voilà. Donc, si vous voulez vous informer sur la tension et sur l'hypertension, parce que dans l'hypertension, il n'y a pas que Dans la tension, il n'y a pas que l'hypertension, il y a aussi l'hypotension. Très difficile à gérer l'hypotension. Ce n'est pas que l'hypotension orthostatique, mais allez sur frhta.org et vous avez possibilité d'avoir une actualité, une mise à jour de l'ensemble de ces thématiques autour de l'hypertension artérielle. À bientôt.